Monde.
Monde vous présente Afrique Presse. Denise Epoté.
Bienvenue à Afrique Presse et meilleurs vœux. Toute l'équipe est ravie de vous retrouver pour ce premier numéro de l'année. L'actualité sera commentée par Hassan Diop de Radio France Internationale, Valérie Thorin d'Afrique-Asie et Francis Laloupeau d'Africa numéro 1. Au sommaire, le Mali, à l'heure des manœuvres politiques, à 6 mois de l'élection présidentielle, le sécurocrate Soumeilou Boubeï Maïga est nommé Premier ministre. Et après 5 ans d'exil au Sénégal, retour triomphal à Bamako pour l'ancien président, Amadou Toumani Touré. Au Sénégal, regain de tension en Casamance ou dans la forêt de Bofa Bayot, 14 bûcherons ont été assassinés. Si la chute de Yaya Jammeh, principal soutien des indépendantistes, a affaibli le MFDC, c'est aujourd'hui le trafic de bois précieux qui préoccupe les autorités sénégalaises. À 6 mois de l'élection présidentielle, les manœuvres politiques ont commencé au Mali, accusé par l'opposition de n'avoir pas réussi à rétablir la sécurité dans le nord du pays. Ibrahim Boubacar Keïta nomme le sécurocrate Boubeï Maïga Premier ministre. Ce dernier promet de prendre des mesures fortes pour relever le défi. Hassan Diop, Souleymou Boubeï Maïga, l'homme de la situation pour amener la paix dans le nord du Mali, aujourd'hui dans le centre qui est également occupé par les rebelles.
Expliquons dans quel contexte intervient cette nomination. C'est-à-dire, nous sommes à 7 mois de l'élection présidentielle. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a déjà usé au moins 4 premiers ministres avant Boubeï Maïga. Donc, on peut penser que c'est une carte en vue, donc, de cette présidentielle. Tout comme le retour triomphal, pleine d'effusion de Amadou Toumani Touré récemment à Bamako après un long exil à Dakar aussi, à mon avis, procède d'une volonté de réconciliation en vue de cette présidentielle. Alors, quant au choix de Boubeï Maïga pour régler les problèmes sécuritaires, alors que le dernier rapport de l'ONU sur les questions sécuritaires au Mali tire la sonnette d'alarme sur le fait que cette insécurité tend plutôt à se propager à travers le pays, notamment dans le centre du pays. Donc, difficulté insurmontable, pas seulement d'ailleurs pour Ibrahim Boubacar Keïta, le président, mais aussi pour les partenaires du Mali dans la lutte contre le terrorisme, que ce soit l'ONU, que ce soit la force française. Alors, quand le nouveau Premier ministre Boubeï Maïga dit que sa priorité est de régler la sécurité, cette priorité est bonne, mais il n'a pas dévoilé sa stratégie, en tout cas un peu à l'image, en tout cas sa stratégie serait un peu ce qu'on avait fait en Algérie, concorde nationale, pardon, etc., etc. Mais on se demande, que n'a-t-il fait lorsqu'il a été ministre de la Défense il y a 2 ans, et puis il a aussi été ministre de l'Intérieur, etc. Alors, bon, c'est peut-être une carte utile, à mon avis, plutôt qu'une carte de la réussite, hein, d'une réussite politique pour le président malien.
Quelle stratégie, Francis Laloupeau, pour relever ce défi?
On a plutôt une dégradation de la situation sécuritaire, ce que reconnaît d'ailleurs l'actuel Premier ministre, Boubeï Maïga. On a une difficulté, d'ailleurs, à organiser des élections cette année, puisque les élections locales ont été reportées à 2018. Et le doute, évidemment, plane sur, évidemment, ces élections. On se demande si l'engagement de la prochaine présidentielle sera tenu en temps et en heure. Voilà donc le chantier face auquel se trouve ce Premier ministre, qui pourrait difficilement réaliser, en l'espace de 6 mois seulement, toutes les promesses non tenues du président Ibrahim Boubacar Keïta, qui aujourd'hui se retrouve dans un seul périmètre de Bamako. C'est un pouvoir aujourd'hui qui se retrouve sur un îlot, qui est l'îlot bamakois, et c'est une sorte d'artifice de pouvoir qui fait à s'étendre à tout un pays, alors qu'on sait très bien que dans le Nord, ne serait-ce que dans le Nord, 28% simplement de l'administration est présente sur cette partie du pays.
Alors, est également le centre aujourd'hui qui est occupé.
Le centre est également qui est occupé. Donc nous sommes dans une situation très particulière. Je finirai en disant que le Mali aujourd'hui, au fond, la situation politique au Mali renvoie simplement, je dirais, à une sorte de gouvernorat qui serait donc installé à Bamako. C'est une co-gestion aujourd'hui entre le pouvoir élu, le pouvoir de l'IBEKA, l'opération Barkhane qui est en place, l'aménagement des forces de l'ONU. On se demande d'ailleurs quel sera l'avenir de ce pays. Il y a des questions existentielles qui se posent carrément pour ce pays. Et face à cela, on a une sorte comme ça, je dirais,
de déni, d'artifice
de pouvoir. Eh bien, écoutez, moi je terminais en disant simplement que Boubeï Maïga aura fort à faire, mais il me semble que Boubeï Maïga n'est pas venu en fait pour tenir les promesses de l'IBEKA. Il est venu essentiellement pour organiser des élections, et si évidemment le seul engagement est de gagner une prochaine présidentielle, eh bien, le Mali continuera évidemment à prolonger cette espèce de pouvoir artificiel auquel nous avons affaire aujourd'hui.
Valérie Thorin, IBK n'a pas encore annoncé qu'il était candidat, mais on se doute bien qu'il briguera un second mandat. L'opposition appelle à une candidature unique pour justement faire échec à Ibrahim Boubacar Keïta. Y a-t-il une personnalité qui incarne aujourd'hui l'opposition au Mali ?
Très honnêtement, comme ça, et à brûle-pourpoint, je ne sais pas. Moi, ce que je trouve délicat, c'est qu'effectivement, qui que soit la personnalité qui sera demain au pouvoir, que ça soit une alternance ou pas, le problème restera, parce que peut faire un chef de l'État aujourd'hui au Mali? Et je crois que Francis a assez bien brossé la situation. On est dans un pays de manœuvre, où on a totalement oublié les engagements, où en tout cas on se révèle totalement incapable de les tenir, notamment les engagements de l'accord d'Alger. Donc ça exclut de fait 50% du pays. Et puis dans les 50% qui restent, eh bien ça grenouille. Alors entre effectivement le candidat de l'ADEMA qui est peut-être qui peut s'allier avec un tel ou autre tel, mais je trouve que c'est pas ça qui est intéressant. Ça c'est faire de la politique politicienne. Moi je pense que la question qu'il faudrait se poser, c'est à partir de quand est-ce qu'on va se mettre à travailler effectivement, j'allais dire que le président vienne au bureau pour gouverner son pays et non pas pour essayer de concilier, de faire des rencontres diplomatiques qui finalement ne servent à rien. Il faut se mettre au boulot. Et il a finalement quelqu'un qui, avec ses compétences en termes de sécurité et puis aussi ses qualités de diplomate, parce qu'il a été ministre des Affaires étrangères, pourrait peut-être essayer de reprendre langue avec un certain nombre de gens qui, pour le moment, sont exclus et entretiennent l'instabilité. Sans pour autant se livrer
Hassan Diop, reprendre langue, ce serait appliquer à la lettre l'accord d'Alger.
Oui, mais l'accord d'Alger, encore une fois, je pense que, bon, Francis, effectivement, a brossé un tableau assez complet, mais je trouve que Francis est trop sévère, quand même, avec Ibrahim Boubacar Keïta. Il l'a dit, d'ailleurs, implicitement, en disant que il n'est pas totalement maître du jeu. Mmh. Ibrahim Boubacar Keïta est président malien, mais il n'incarne pas toute la souveraineté, hélas, de ce pays. L'un des piliers de la souveraineté, c'est la sécurité. Or, cette souveraineté est déléguée aussi bien à l'ONU qu'à travers des accords qu'il a lui-même signés avec François Hollande ou même son Diokounda Traoré, qui était le président par intérim. Voilà, pendant la transition, pour qu'on bloque l'avancée des djihadistes vers Bamako. Donc, c'est un président, finalement, qui n'a pas les pleins pouvoirs. Mmh. Et donc, on ne peut pas non plus aujourd'hui dresser un bilan d'IBK sans tenir compte de ses paramètres, du fait de ce paramètre principal, qui n'est pas seul maître du pouvoir. Donc, il est obligé de naviguer. Il est obligé même, parfois, de faire des propositions qui paraissent parfois, je dirais, en dehors de la réalité, telles que cette révision constitutionnelle, qui peut-être aussi est l'une des explications du renvoi du Premier ministre précédent. Il a échoué. Il a fait plusieurs propositions qui ont échoué, qui n'ont pas abouti au niveau de forum, de conférence nationale post-accord d'Alger de 2015. Et tout ça, ça ne marche pas. Oui. Donc finalement, IBK cherche à exister. Et quand on dresse aujourd'hui le bilan de son premier mandat, je pense qu'il ne faut pas lui imputer totalement la responsabilité des échecs.
Si, moi je viens plus de la responsabilité parce que c'est lui qui est aux commandes de l'État. Il aura fait ce qu'il aurait pu faire.
Oui, mais dans la réalité, Francis, vous savez bien qu'il n'est pas maître du jeu. C'est que Paris est autant maître du jeu que Bamako dans cette affaire.
Alors, qu'il ne soit pas maître du jeu, j'entends bien Hassan Diop, mais la question c'est que, moi ce qui m'inquiète, c'est qu'il s'en accommode. C'est qui s'en accommode? Que fait-il pour reconquérir davantage de souveraineté et étendre, je dirais, son autorité à la fois au sommet de l'État que sur l'ensemble du territoire
malien? Il faut mobiliser des troupes, avoir les moyens de contenir les attaques, les terroristes.
La question est de savoir est-ce qu'on s'accommode de l'impuissance du pouvoir ou pas. Mais bon, mais pour revenir à Boubeï Maïga, le Premier ministre, il y a quand même quelque chose de paradoxal. Voilà un homme qui, en 2014, a dû démissionner parce que il fallait qu'il prenne acte de la défaite des forces armées maliennes face aux rebelles à Kidal. Et qui revient aujourd'hui et qui devient l'homme dépositaire de la capacité de l'État à résoudre la question sécuritaire dans le Nord et ailleurs et à appliquer des accords de paix qui, évidemment, piétinent depuis plusieurs mois. Alors, c'est une sorte de paradoxe, mais on n'est pas un paradoxe près au Mali, parce qu'on a parfois l'impression que les acteurs politiques maliens, pouvoir comme opposition, prétendent de temps en temps qu'il fait jour à minuit. Alors, c'est ça la question. Ce sont des petits arrangements entre Mali, qui me semble tellement superflu par rapport aux grands enjeux auxquels a fait face, auxquels est confronté ce pays. L'enjeu sécuritaire est colossal, est énorme. Le Mali est en train de devenir ce
que... Il faut rappeler que ATT avait été lui-même renversé en 2012 pour n'avoir pas réussi à éviter la crise dans le Nord.
Oui, la crise dans le Nord, c'était quand même les rebelles d'abord. Les rebelles qui avaient quitté le giron de Kadhafi avec armes et bagages, et puis qu'ensuite, lesquels rebelles Touareg allaient être délogés par les djihadistes, leurs petits frères ou leurs grands frères.
Un petit arrangement entre amis, parce que voilà, il y a quelques temps, il n'y a pas si longtemps que ça, ATT était quand même accusé de tous les maux, de haute trahison. Voilà, on a affaire à cette classe politique où on s'accuse, on s'auto-amnistie, on s'arrange entre soi, on organise des petites kermesses locales pour des élections, etc. Tout ça est très bien. Je pense que la question centrale aujourd'hui, à 6 mois de l'élection, c'est simplement de regarder lucidement ce bilan de Ibeka. Il aura tenté de faire, évidemment, ce qu'il aura pu, mais sur quoi va se fonder, je dirais, l'argument de campagne, sur quels arguments plutôt va se fonder la campagne électorale de Ibeka. Alors, sur quel bilan? Parce que la question, c'est une chose est de vouloir empiler, autre chose c'est simplement de regarder son bilan tel qu'il est. C'est vrai que les promesses n'ont pas été tenues, et rien que pour cela, il faudrait peut-être penser simplement à ce qu'il tire sa révérence et qu'il laisse d'autres équipes dans ce pays pouvoir prendre le relais. Pas forcément dans cette claque aussi.
Alors, justement,
c'est ce que lui propose l'opposition.
Alors justement, je suis entièrement d'accord avec Valérie, je m'interroge. Est-ce qu'effectivement ça sera mieux? Est-ce qu'aujourd'hui, sur la scène politique malienne, y a-t-il un pilote capable de piloter le Mali en tant que président? La question reste posée.
On en reparlera d'ici le mois de juillet. Regain de tension en Casamance au lendemain de l'assassinat de 14 bûcherons dans la forêt de Bofa Bayotte. Suspecté par le pouvoir, les indépendantistes du MFDC condamnent le massacre. La chute de Yahya Jammeh, principal soutien du MFDC, avait suscité l'espoir d'une nouvelle ère en Casamance, région minée par 36 années de conflits sur fond de guerre indépendantiste. Désormais, c'est le trafic de bois précieux qui préoccupe les autorités locales. Et les affrontements entre l'armée et indépendantistes à Hassan Diop pourraient reprendre.
Oui, enfin, pourraient reprendre. En tous les cas, si on parle de cette affaire, de ce regain de violence absolument hallucinant et atterrant, pour l'instant, on ne sait pas qui sont les responsables. Donc, l'hypothèse avancée aussi bien par les séparatistes que par certaines sources à Dakar, c'est une filière mafieuse de trafic de bois de teck. Le teck qui est utilisé notamment dans la construction navale, de yachts de luxe, etc. Alors, l'enquête dira ce qu'il en est. Je pense que depuis 2012, normalement, les séparatistes observaient une espèce de paix des braves, donc depuis la fin du règne de Abdoulaye Wade, depuis l'arrivée au pouvoir de Macky Sall. Et ces dernières semaines, on sait que des séparatistes, avec l'intervention de Sant'Egidio, cette congrégation religieuse romaine qui joue un peu les organisations de paix et qui assure des médiations en Afrique, étaient parvenus à obtenir la libération donc de deux dirigeants séparatistes. Donc voilà, et on sait très bien que souvent, et j'en terminerai, souvent dans un environnement où il y a de la guérilla, des mouvements séparatistes, toujours derrière, il y a des mafieux, il y a des intérêts, il y a, comme en Centrafrique, bon, en Casamance c'est le bois de teck, en Centrafrique c'est le diamant, c'est l'or, c'est ce qui est arrivé récemment dans des exactions à Paoua, dans une des régions du pays. Donc je ne serais pas effectivement surpris de cette hypothèse de groupes armés mafieuses qui effectivement défendent leur territoire, et surtout que ce bois était dans une zone préservée, dans un parc naturel.
Francis Lébeau, que faut-il penser des propos du président de l'association des Casamançais, Pierre Goudiaby, à TEPA, qui a déclaré que si des noms leur étaient demandés, il les donnerait, sous-entendu, les commanditaires sont connus.
Oui, alors c'est vrai qu'en ce moment, il y a un débat au Sénégal, cette focalisation sur des commanditaires. Je pense que l'important pour l'instant, c'est d'abord de retrouver les auteurs, avant même de penser aux commanditaires, quoi. Parce que c'est une manière de déplacer un peu, le problème. Pour l'instant, l'État se concentre sur la recherche des auteurs. Et pour la première fois, dans une affaire casamançaise, on constate une forme d'unanimité dans le pays. Pouvoir, comme opposition, s'associe évidemment pour condamner.
Y compris Khalifa Sall du fond de sa cellule.
Exactement. Et même le MFDC, d'ailleurs, a publié un communiqué officiel pour condamner ces actes, évidemment, très violents. Moi, je m'associe à ce que vient de dire totalement Hassan Diop. C'est vrai qu'en fait, depuis quelques temps, on a oublié le conflit casamançais. Mais le conflit n'est pas éteint. Ce conflit existe toujours. On parle de conflit de basse intensité, évidemment. Il y a une sorte de paix de braves comme ça, ou d'accalmie, en tout cas, qu'on observe depuis quelques temps. Mais il ne faut pas oublier que la Casamance est restée une zone de conflit, donc avec à mes endroits de la Casamance l'absence d'État, l'absence de l'administration, des déserts administratifs. Et on le sait, dans un pays fragile, dans une région fragile, quand l'État est absent en certains endroits, se développent ce qu'on appelle des zones grises. Et c'est une zone grise, évidemment, qui favorise le trafic en tout genre, les groupes mafieux. Donc voilà, l'hypothèse la plus plausible aujourd'hui, c'est un règlement de compte entre bandes rivales autour, évidemment, de bois de teck fortement convoité, règlement de compte évidemment dans des zones où l'État a reculé, où l'État a été absent pendant plusieurs années.
Oui, il y a des voisinages néfastes aussi, parce que là, cette attaque est
intervenue. Rappelle simplement qu'il faut qu'on règle définitivement la question casamançaise et qu'il faut normaliser cette région et la mettre, je dirais, enfin, restaurer une sorte de continuité d'État, de l'État, de Dakar jusqu'à Ziguinchor.
Valérie Thorin, on se souvient des propos d'Abdoulaye Wade, qui avait dit qu'il se donnait 100 jours pour régler la crise casamançaise. On se rend compte que ni Abdou Diouf, ni Abdoulaye Wade, ni Macky Sall ne sont parvenus à résoudre la crise casamançaise.
Ça voudrait dire que cette affaire relève de la crise casamançaise, ce dont je ne suis absolument pas persuadée. Je pense que, évidemment, les acteurs politiques, c'est un petit peu comme Boko Haram au Nigeria. Il se passe quelque chose au Nigeria, et d'un seul coup, on dit c'est Boko Haram, on a affaire à du terrorisme international, il y a Daesh, Al-Qaïda et le gros Méli-Mélo. Là, il se passe quelque chose en Casamance, tout de suite on dit, ah bah oui, le MFDC, on reparle du malheureux Diamakoun Senghor qui est là, décédé
qui est mort
depuis
bien
longtemps. Je ne crois pas que ça soit une affaire d'irrédentisme. Je crois que c'est une affaire de grand banditisme, peut-être de règlement de compte entre bandes rivales, peut-être une affaire de trafic de tech, peut-être une affaire de cannabis, parce que la grosse production de du coin, c'est quand même le cannabis, le shit, le reste. Donc moi, je ne crois pas que il faille dire que c'est le conflit casamançais. Alors évidemment, ça fait de la pub à des gens dont on n'a pas parlé depuis des années, les Nkrumah Sané, etc. Tout le monde remonte un peu parce que tout le monde est remis en selle par cette affaire.
Y compris les médiateurs casamançais, d'ailleurs.
Oui, y compris les médiateurs. Oui, et tout le monde va... Alors, il va y avoir des réunions, des paires diems distribuées à gauche, à droite. On va dire, ben voilà, il faut un peu d'argent pour
business,
que tout le monde... Ça va remonter un peu un business politique, alors que je crois que c'est une affaire de grand banditisme et qu'il faudrait, c'est vrai, comme dit Francis, un peu plus d'État, un peu plus de police.
C'est donc l'armée qui est en première ligne.
Non, justement, évidemment que l'armée, peut-être qu'il n'y a pas suffisamment de présence sécuritaire. Mais rappelons tout de même que la zone où l'attaque est survenue, à quelques dizaines de kilomètres de Ziguinchor, l'une des métropoles régionales, parce qu'il y a plusieurs régions en Casamance depuis le dernier découpage, c'est quand même non loin de la frontière de la Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau est un État sans État. C'est un narco-État. C'est un État qui n'existe pas. Donc il peut y avoir aussi des groupes organisés de l'autre côté de la frontière qui opèrent également en territoire sénégalais. Et c'est sûr qu'il faut des moyens colossaux pour arriver, évidemment...
On avait pourtant pensé que la chute de Yahya Jammeh assécherait
Oui, mais ça, c'est le côté gambien. Ça, c'est le côté, parce que la Casamance est prise en tenaille entre la Guinée-Bissau et la Gambie. Alors, évidemment, entre deux États qui étaient naguère pourris, il y en a un seul qui est resté pourri, c'est la Guinée-Bissau.
La nécessité du retour de l'État sénégalais,
mais alors,
plus fortement en Casamance.
Probablement.
Et ça passe par l'extinction du conflit casamançais.
Oui, mais alors, ce conflit, en tout cas, depuis 2012, Francis, il faut admettre que c'était le grand calme, c'est-à-dire depuis l'arrivée au pouvoir de Macky Sall.
C'était ni guerre ni paix. Hein.
Voilà, c'était ni guerre ni paix, mais il y avait quand même des négociations en coulisses, puisque il y a encore deux semaines, deux séparatistes casamançais qui étaient en prison ont été libérés. Donc effectivement qu'il y avait cette préoccupation de ramener la paix en Casamance, mais je crois que finalement la situation, en tout cas concernant le séparatisme, s'est plus ou moins calmée, c'est même plus calmée que moins sous Macky Sall, alors que sous Abdoulaye Wade qui prétendait régler le problème en quelques jours, eh bien c'était constamment la violence.
Ça sera le mot de la fin. C'est la fin d'Afrique Presse. Nous avons une pensée pour Brigitte Ducournau qui nous a quittés il y a 3 semaines. Tous les vendredis, elle prenait soin de notre maquillage. C'est la fin d'Afrique Presse. Merci à Hassan Diop de Radio France Internationale, à Valérie Thorin d'Africasie et à Francis Lalupo d'Africa numéro 1. Vous pouvez revoir et réécouter cette émission sur les sites de RFI et de TV5 Monde.